Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission placée sous le signe de la disparition, mais aussi de la remise au monde, avec deux auteurs dont je suppose qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, alors que leurs livres semblent se nourrir des mêmes convictions, du même esprit de résistance. Alain Damasio, le pape français de la science-fiction, et Sylvie Germain, la tsarine du roman spirituel, animiste, mystique, dit-on parfois. Bonjour Sylvie Germain.
Oui, bonjour.
Alors, mystique, c'est un peu exagéré, non?
Oui, non, c'est très exagéré. Ouais. Non, mais parce que c'est un mot, comme beaucoup de mots, qu'on utilise un peu à tort et à travers, faute de le définir précisément. Et comme je me suis beaucoup intéressé à la mystique, particulièrement à la mystique rhénane du temps de mes études. Ouais. J'ai une certaine idée de ce qu'est la mystique. Et moi-même, je ne me considère absolument pas digne d'avoir ce qualificatif.
De cette appellation.
C'est exagéré.
N'êtes pas maître Eckhart.
Ah, voilà. Hélas, non. Ni Hildegard de Bingen, ni tant d'autres.
Je ne s'appellerai pas maîtresse Eckhart. Voilà.
Non.
Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Et alors vous, c'est pareil, pape français,
moi qui suis athée, c'est difficile pour moi. Mais
voilà.
Ouais. Non, je suis plutôt...
C'est une belle consécration, quand même.
Ouais. Plutôt un Sherpa qui porte les sacs de l'ASF en essayant de monter l'Everest que peut proposer le genre. Non, mais c'est toujours...
C'est bien Sherpa, c'est pas mal.
Ouais. Non, mais on essaye de porter un certain nombre de messages et de valeurs sur la crête.
Et sur la crête, sa ligne de crête. Je disais, vous ne vous étiez jamais rencontrés.
Non.
Jamais.
Il
n'est jamais trop tard.
On va voir ce que ça donne. Alors, Alain Damasio, vous êtes l'auteur de La Zone du Dehors et de La Horde de Contrevent, qui avait remporté le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006 et qui vous avait imposé comme l'un des maîtres de la science-fiction française. Alors que vous étiez promis à une carrière d'économiste ou de businessman, vous êtes né à Lyon en 1969 et puis quand vous avez fait vos études, vous êtes retrouvé à l'ESSEC, donc la grande école de commerce, et vous avez choisi d'abandonner pour vous consacrer à l'écriture. Votre premier roman, La Zone du Dehors, posait déjà une des thématiques récurrentes de votre œuvre, celle de la place de l'individu dans une société qui restreint les libertés. Et c'est le sujet aussi des Furtifs, votre nouveau roman, gros roman qui vous a pris 10 ans.
Ça s'est étalé sur même 15 ans entre les premières notes et la fin, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'écrivains dans les romans longs. Après, c'est 3 ans d'écriture, mais c'est déjà beaucoup, 3 ans d'écriture. Ouais.
Et dès les premières pages, on entre dans un monde aussi étrange que familier, parce qu'on est en 2040, c'est-à-dire demain. Chaque Français porte une bague où sont numérisées toutes ses données personnelles, ces fameuses data. Les finances publiques sont tellement dégradées que l'État a été contraint de vendre certaines villes à des entreprises privées qui les rebaptisent et les gèrent comme des parcs humains avec des zones standards, premium, privilèges selon le forfait que chacun peut payer. Alors privilège, on a le droit à tous les services, et puis standard, c'est un petit peu moins marrant. Lyon devient donc Nest Lyon. Orange garde son nom puisque la société qui possède la ville s'appelle déjà comme ça. Et c'est dans cette ville où tout est tracé, traqué par le numérique, qu'un père de famille, Lorca Varese, 2 ans après la disparition de sa fille Tishka, passe des tests pour devenir chasseur de furtifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un furtif ? C'est une espèce animale extrêmement intrigante que les hommes viennent de découvrir, qui vit dans les angles morts de la vision humaine. Les premières pages nous mettent au milieu de cette chasse aux furtifs. Et ce sont des animaux tout à fait extraordinaires qui sont passés maîtres dans l'art du camouflage, de la reproduction des sons et qui se figent dès qu'ils sont vus. Ils se pétrifient. Croyant que sa fille est encore vivante et aurait pu fuir avec ses furtifs, Lorca décide de rejoindre une unité d'élite spécialisée dans la traque de ces furtifs avant de se laisser porter par différentes découvertes et révélations au fil de ses aventures dans ce drôle de monde où il vit désormais, qui sera peut-être le nôtre, j'espère pas. Vous saviez, Alain Damasio, que dès le départ, c'était eux, les furtifs, qui allaient porter le livre en lui donnant ce titre, c'est-à-dire la question de la furtivité dans un monde trop surveillé.
Oui, c'était vraiment une espèce d'axe de départ. Moi, j'aime bien essayer de bâtir les romans sur ce que j'appelle des sortes de cœur-concept, quoi. C'est vraiment des concepts centraux qui me paraissent suffisamment totipotents comme ça pour porter énormément d'idées et de ressources émotionnelles à la fois. Et Et vraiment, j'étais toujours sur cette idée de, voilà, de société de contrôle, de régime de traces. Je poursuivais la piste lancée génialement par Deleuze dans les années 90, où il dit, bah voilà, on passe du régime disciplinaire au régime de contrôle. Donc, comment échapper au contrôle? Comment y résister? Et je me suis dit, bah voilà, il faut bâtir une espèce de concept. Alors c'est prétentieux de dire ça, surtout face à une philosophe, mais
de concept de
Tout petit peu, Sylvie Germain.
De furtivité. Et du coup, effectivement, ça donne tout l'axe du roman. C'est-à-dire que après, je l'ai construit un peu comme un thriller, même si j'aime pas les thrillers et je suis pas doué pour les thrillers.
Oui, c'est un petit peu plus ambitieux que
voilà,
ça.
Voilà, c'est-à-dire que c'est un système de révélation croissante sur cette espèce où progressivement, on va comprendre que c'est la plus haute incarnation du vivant, quoi.
Oui. Et, ça va, je me disais, est-ce qu'il va trop.
Mais, et effectivement, du coup, ça dirige, ouais, ça conduit le récit. C'est un peu le point de fuite du récit.
Et d'ailleurs, furtif, si on en fait un acronyme, ça donne un fuir, vous le dites, un fuir, un réseau, trop intrusif, fuir. Voilà.
Ouais, ouais, un petit hommage à Mallarmé aussi. Ouais.
Voilà. Fuir là-bas, fuir. Voilà, et oui. J'ajoute que le roman, on en parlera, hein, est prolongé. Enfin, je sais même pas s'il est prolongé. Il vit avec, en fait, puisqu'on parle du vivant, avec un album que vous avez réalisé avec Yann Péchin, guitariste mythique de Bachung, notamment, et de Brigitte Fontaine. Un album qu'on peut télécharger gratuitement quand on a le livre. On en parlera et on écoutera d'ailleurs un de ses titres. Sylvie Germain, donc ni mystique ni philosophe, rien ne va plus. Prix Fémina pour Jour de colère, prix Goncourt des lycéens pour Magnus. Vous publiez Le vent reprend ses tours chez Albin Michel. D'ailleurs, je n'ai pas dit que Les Furtifs, c'est chez La Volte. Voilà votre éditeur, Alain Damasio. Le vent reprend ses tours chez Albin Michel. Le titre vient du livre de l'Ecclésiaste. Il est aussi question dans ce livre de traces qu'on laisse et de disparitions aussi. En l'occurrence, celle d'une sorte de saltimbanque roumain qui adorait déclamer des poèmes perchés sur des échasses. Un homme qui est décrit d'ailleurs comme pas tout à fait un homme, c'est un furtif aussi peut-être lui, un homme oiseau parce qu'il a un masque avec une sorte de grand bec, ses échasses, qui vit aussi dans les angles morts de la société. Je vous cite Sylvie Germain, un diplômé d'écoles aléatoires, d'universités aussi informelles qu'éphémères, un lettré de briques et de broc, de chair et de sang, un puits d'étincelles. Et le héros, en fait, de ce nouveau livre, c'est Nathan. Il a la quarantaine, il a une vie triste, dévitalisée. Il a rencontré, en fait, ce réciteur quand il avait 9 ans. Il s'appelait Gavril, c'est-à-dire Gabriel. Il a enchanté sa vie à grands coups de poésie en entraînant ce garçon, d'abord enfant, puis adolescent, dans les rues de Paris, en lui faisant découvrir des lieux surprenants, lire des plaques, c'est pour ça que je parlais de traces, avec des noms de disparus, qu'ils appellent des mementos. Et c'est une sorte d'éducation vagabonde qu'il lui a donnée. Et puis après des années de compagnonnage poétique, cet homme a disparu de sa vie. On a dit à Nathan que, je ne vais pas tout dévoiler, mais que Gavril était mort. Il ne s'en est jamais remis. Et je vous cite une nouvelle fois, voilà ce qu'est devenu sa vie. Qu'a-t-il jamais fait d'autre depuis toujours, sinon vivre comme si de rien n'était? Sa vie n'avait jamais vraiment pris son élan. Elle n'avait su que croupir et suinter par les pores du temps, ainsi qu'une fièvre larvée. Surtout à partir de l'année de ses 17 ans, où Gavril avait disparu. 30 ans après, une affiche sous un abribus d'appel à témoins bouleverse Nathan, qui est devenu un adulte. Il reconnaît Gavril et apprend que cet homme n'est pas mort. Il est très vieux, il s'est enfui de l'établissement où il était hospitalisé. Et le héros, donc Nathan, va se lancer dans une quête qui le conduira jusqu'en Roumanie, le pays d'origine de Gavril, mais aussi dans sa propre enfance. Je disais que j'étais content de vous présenter l'un à l'autre, parce qu'il y a une de vos phrases qui, je pense, va plaire à Alain Damasio, Sylvie Germain. Ce que vous nous dites hein, dans votre livre, c'est que il ne faut pas faire que, je vous cite, « glisser, être lisse, bien couler dans les normes de l'époque », conformiste mais sans en avoir l'air, ni surtout en prendre conscience, obtempérer à l'air du temps, ne pas se faire remarquer plus que nécessaire, toute cette inconsistance lui saute aux yeux, le prend à la gorge. Ça vous parle, Alain Damasio?
Ouais, c'est très beau. Hein, ça, ouais.
Voilà, deux résistants aujourd'hui. Comme Alain Damasio d'ailleurs, Sylvie Germain, vous inventez des noms étranges, des néologismes qui se rapportent à des instruments de musique, puisque ce saltimbanque joue du sax hockey, du poémophone, de l'olifantastique. Donc il y a beaucoup de choses qui vous réunissent. Est-ce que pour vous, Sylvie Germain, il y avait cette idée aussi qu'il fallait peut-être écrire ce livre pour ouvrir les yeux, même les oreilles du lecteur, sur une immense et préjudiciable disparition, c'est-à-dire peut-être la disparition d'une humanité où régnait la liberté, puisqu'on en a parlé, où régnait la beauté? Est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit le vent reprend ses tours.
Non, je pars pas du tout avec un projet aussi clair. De roman en roman, pour moi, c'est chaque fois la même surprise, la même aventure. J'avoue, je sais pas du tout où je vais. Ça part d'images, de sons, de... et puis bon, je m'y mets et je découvre vraiment au fur et à mesure du récit. Mais on n'écrit pas à partir de rien, même si on invente tout. Il faut prendre d'ailleurs le verbe inventer dans son sens premier. Comme on dit qu'un découvreur scientifique ou un archéologue a inventé, soit du fond de la mer, soit dans les sables, une statue. Finalement, c'est ce qu'on fait les écrivains. On invente, en ce sens-là, des images, des histoires qui se tramaient au plus profond de nous. Hein. Ça nous vient pas d'ailleurs, ça vient vraiment des profondeurs. Et puis, on écrit avec la culture qu'on s'est donnée, fut-elle de brick and broc, on écrit avec sa sensibilité, avec ce qui nous marque dans l'actualité, ce qui nous choque. Et il y a de quoi souvent, enfin, hélas, tous les jours est assez bouleversé ou choqué. Donc, je crois que c'est tout ça qui met en mouvement le désir d'écriture et après, ça transparaît dans le texte.
Et pour ce livre-là, parce qu'il est, on va avoir le temps d'en parler, mais il est beaucoup question d'une poésie, des poètes qui auraient déserté le monde parce que justement la beauté n'est plus si facile à trouver. En tout cas, on pourrait la trouver, mais elle est difficile à célébrer, comme si le monde ne voulait plus célébrer cette beauté, cette poésie. Cette idée-là, elle s'est retrouvée dans le livre à cause de quoi ? Vous disiez, ça part d'histoires qu'on se raconte, qui étaient là au fond de notre mère à nous, en fait, MER. Voilà.
Il y a plusieurs éléments. Il y a aussi le fait que le personnage de Gavril, qui est une version populaire en Roumanie du prénom, effectivement, Gabriel, est Rome d'origine par sa mère. Et c'était une façon aussi de, même si c'est de manière assez brève, évoquer aussi dans la Shoah, il y a eu cette volonté d'extermination des Tziganes. Et comme ils n'ont pas une tradition écrite, mais une tradition orale et un rapport à leur mémoire très particulier, ils sont très quand même fermés sur eux-mêmes, on a une grande méconnaissance de leur histoire. Et je trouve qu'il y a une grande injustice, là encore, à leur égard. Donc, c'était une manière d'évoquer, même brièvement, les heures très sombres de la Roumanie, qui sont allées quand même pendant des décennies, de catastrophe en catastrophe. Et en même temps, oui, il y a eu cette poésie, parce qu'il y a eu beaucoup de poètes d'origine roumaine en France, même si certains n'étaient plus de langue roumaine. Par exemple, je pense à Paul Celan, il est né à Tchernovitch, qui à l'époque était en Roumanie. Et puis j'évoque vers la fin du livre un poète dont on parle plus tellement, je trouve, Gerasim Luka, qui est un personnage...
Qui est mort à Paris, hein, d'ailleurs.
Qui ouais. s'est suicidé ouais, comme ouais. Paul Celan, ouais. mais lui, il est rentré dans la scène, ça n'a ouais. pas été une sorte de raptus, il a laissé un mot où justement, il disait, globalement, à quoi bon encore continuer à vivre dans un monde qui n'accepte plus les poètes. Mais si on réfléchit, je crois que les poètes, depuis peut-être quasiment Homère, ils savent qu'ils devraient avoir une place vitale, je dis pas centrale, mais vraiment vitale dans une société, et que malheureusement ils sont mécompris, mis de côté. Regardez, il y a la phrase très célèbre de Hölderlin, et pourquoi des poètes en ces temps de détresse ? Mais l'humanité est presque tout le temps en temps de détresse.
Simplement. Donc c'est pas notre époque qui non. a accentué ce phénomène.
Elle donne l'impression, moi j'ai bien sûr toujours cette impression que ce phénomène est terriblement aggravé et accéléré, mais parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on a des moyens techniques beaucoup plus performants, mais hélas souvent dans un sens extrêmement négatif, c'est-à-dire très destructeur, et que on voit beaucoup plus les choses, que les choses se passent plus vite. Mais je pense que dans le fond, il n'y a rien de nouveau, quoi.
Est-ce qu'écrire, Sylvie Germain, je poserai la question évidemment aussi à Alain Damasio, est-ce qu'écrire justement, c'est avertir, c'est essayer de faire ouvrir les yeux quand même sur ce que vous venez de nous dire? Voilà, c'est peut-être dommage, juste dommage, qu'à chaque fois, le monde ne donne pas sa place au poète, à un autre discours, en fait, non utilitariste, non immédiatement rentable.
Je me considère pas comme une lanceuse d'alerte. J'ai pas d'ailleurs même cette prétention. Écrire un essai, c'est une chose. Écrire un roman, oui, un roman peut être militant, peut être... Mais je crois que c'est avant tout quand on écrit un roman, puisque je me laisse surprendre par les personnages et l'histoire qui va se mettre en place, la première alerte, c'est à soi-même qu'on la donne. C'est peut-être une manière de faire advenir vraiment à notre conscience des doutes, des soupçons, des malaises qu'on porte en nous face à cette marche, quand même marche folle du monde qui va droit dans le mur dans bien des domaines, et de plus en plus. Et je pense que c'est une manière pour l'écrivain de s'arrêter, d'essayer aussi de réfléchir à ça. Ensuite, il trouve un écho ou pas, il y a un partage. Mmh.
Alain Damasio, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, cet écrivain, voilà, avertisseur.
Je suis très touché parce que dit Sylvie sur le. C'est vrai que sur la naissance du livre, quand tu es écrivain, moi, j'adore ce que dit Marguerite Duras là-dessus, dans écrire. Je trouve que ça rejoint vraiment ce que vous dites. C'est-à-dire, on écrit pour savoir quel livre on écrirait si l'on écrivait, quoi. Et on sait qu'après, quoi.
Oui, c'est une très belle formule.
Et c'est vrai qu'on sait qu'après, et même si on veut architecturer, préméditer le livre, etc., moi, j'essaye toujours, voilà, comme je l'ai dit, de partir de certains nombres de concepts, j'essaye de structurer au maximum, mais malgré tout, tu ne comprends qu'à la fin ce que t'as fait, et parfois des années et des années après, parce que le livre t'échappe et monte à travers toi pour...
Enfin, là, il y avait quand même une volonté de dire certaines choses.
Ah ouais, après,
il y a sur le monde.
Après, c'est assez marrant
de se servir de la science-fiction.
Mais complètement. C'est-à-dire qu'il y a, une volonté, bon, voilà, très rationnelle, très consciente, de dire, bon, en science-fiction, en plus, on est l'anticipation, donc on a cette volonté, effectivement, de lancer des alertes, de lancer des alarmes, et de dire, voilà, regardez les tendances actuelles, regardez le présent dans lequel on vit. Si je pousse maintenant tel ou tel vecteur, si je l'intensifie, si ce signal faible, là, je le pousse en signal fort. Qu'est-ce que ça donnerait, notamment sur l'ultralibéralisme qui nous bouffe, hein, qui nous vampirise? Et c'est ce que je fais sur les villes privatisées, c'est ce que je fais sur cette idée que la ville ne serait plus un espace commun, mais serait un espace effectivement hiérarchisé selon le niveau de richesse. Bon, on fait ce travail-là. Malgré tout, moi, plus j'avance en âge, plus ce côté lanceur d'alerte, j'ai tendance à m'en méfier pour moi-même et pour mes livres, parce que j'ai l'impression que je suscite plus un état de fascination ou de sidération pour le pire, pour le cauchemar, pour la dystopie, que d'activer un horizon de désir vers quelque chose qui serait différent. Donc j'essaye maintenant de faire, j'ai envie de dire, voilà, mon cocktail, ça devient maintenant presque un tiers de dystopie, deux tiers d'utopie. C'est-à-dire, j'ai vraiment tendance à dire, voilà, je mets ce fond ultralibéral en place avec cette espèce de techno-cocon qui nous enveloppe, qui nous assourdit.
Le techno-cocon, voilà.
Voilà, qui nous empêche justement d'accéder à l'ouvert, au dehors, à toutes ces choses, à l'altérité, à toutes ces choses qui nous construisent et qui nous rendent nobles en tant qu'être humain, quoi. Et le manque de poètes, moi je suis complètement d'accord, il vient, alors chaque époque a sa façon de faire disparaître les poètes, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est l'économie de l'attention, c'est la sursollicitation qu'on a sur les réseaux qui fait qu'on n'arrive plus une parole qui va ouvrir les choses, qui va nous faire accéder à ce dehors, donc c'est encore une manière un peu perverse d'atteindre, mais voilà, donc le problème pour moi c'est plutôt de construire effectivement un horizon de désir, plus encore que de lancer des alertes que tout le monde voit arriver, je veux dire, il y a les théories de l'effondrement qui sont là, qui...
Oui, ça,
il y a
vous
beaucoup de gens
qui ont analysé
très bien l'ultralibéralisme et le capitalisme tardif. On a beaucoup d'essais magnifiques là-dessus. Mais voilà, c'est comment orienter vers le positif, hein, j'ai envie de dire.
Alors Alain Damasio, votre personnage de chasseur de furtifs, dans les premières pages, dit presque la même chose que Sylvie Germain. Il faut entrer dans l'ouvert, voilà, avec ce haut capital. Alors quelle réalité vous mettez, vous, derrière cet ouvert, c'est intéressant.
C'est déjà cette capacité, effectivement, d'entrer dans le présent, qui est quelque chose de très compliqué pour notre époque, parce qu'on est très projectif sur le futur. Moi, je vois comment même sur ma propre vie, comme j'ai tendance toujours à projeter au lieu de descendre dans le présent. Donc, je le dis à un moment donné avec ce néologisme, je dis, bon, voilà, présentir, quoi. C'est à sentir le présent comme quelque chose de, et entrer dans l'ouvert, moi, j'adore. Bon, c'est un terme qui a été utilisé par Rilke, par Heidegger, par Bergson. Là, j'utilise plutôt peut-être dans le sens de Bergson. C'est vraiment comme, être disponible au temps et être disponible à ce qui peut advenir. Voilà, être disponible au neuf, au surgissement du neuf. Et effectivement, tu ne peux voir un furtif, tu ne peux le chasser que si tu es entièrement disponible, notamment à toutes les toutes petites traces sonores qu'il laisse un peu partout derrière toi, parce qu'il est dans ce cube blanc et effectivement, bien qu'il n'y ait aucun obstacle, le furtif est toujours placé derrière lui dans l'angle mort et c'est extrêmement difficile de piéger ses déplacements. Donc j'aimais bien cette idée, voilà, de pouvoir réussir que si effectivement tu arrives à être dans ce présent de façon et à le dilater, quoi, à le dilater.
Alors être disponible, vous disiez, à tous les sons. Eh ben, on va écouter quelques sons, Alain Damasio. C'est votre choix musical, mais de toute façon, si vous n'aviez pas choisi ça, je vous aurais demandé la permission de le passer, parce que je le disais, ce livre, il s'accompagne. Alors le livre n'est qu'un livre, mais si on veut, on peut télécharger donc un album que vous avez composé avec Yann Péchin. C'est 8 titres qui sont liés au livre, qui sont offerts avec le livre, quand on achète le livre, et qui sont des mises en musique de l'univers, en fait, des furtifs. Alors, vous allez nous expliquer mieux. On a choisi Overmars.
Overmars. C'est un moment de la fin du livre. C'est le moment des, moi, que j'appelle des micro-révolutions. C'est-à-dire, j'essayais de montrer justement tout un ensemble de pistes possibles où des basculements se produisent dans la vie des gens, alors soit dans les collectifs, soit de façon individuelle, pour sortir et pour aller justement vers le vivant, pour renouer avec le vivant. Et c'est tout un ensemble de petites choses, parfois absurdes, parfois drôles, parfois émouvantes, mais qui montrent que ça, il y a une mutation, une hybridation se produit dans l'espèce humaine, en tout cas en 2040, dans ce livre. Et les gens se furtivent, ou en tout cas s'hybrident avec une forme de
furtivité. Se furtiver, voilà.
C'est s'hybrider avec une forme de furtivité.
C'est un joli mot.
Le mot furtif est très beau.
Ah bah oui.
Donc j'ai fait un peu, c'est un hommage à Nuit Debout aussi, c'est-à-dire qu'on dépasse le 31 mars, on va à 62 mars, à 106 mars, etc. C'est-à-dire que voilà, le temps, c'est comme dans tous les calendriers révolutionnaires, à un moment donné, on s'empare du temps et du calendrier lui-même et on le subvertit, voilà, pour aller au-delà. Donc c'est un titre là-dessus. Ouais.
Et une petite chose quand même, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous disiez le mot furtif est très beau, Sylvie Germain, mais souvent on met chasseur furtif, et vous vous déplacez à son chasseur de furtif, en fait. N'est plus furtif que le chasseur, en fait. La proie aussi.
Oui. Et puis après, ouais. Ça va se retourner en plus.
Mais... on écoute Overmars.
Le 1er mars,
un mécano de drone a suspendu un café dans le dernier bar standard de la rue des Martyrs. « Tu le fileras à un vendiant, à qui tu veux !» il a ajouté devant les yeux écarquillés du robot.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Le 2 mars,
Nadège M, retraité privilège, qui avait voté Gorner au premier tour, a enlevé à la tenaille et à la bêche les 400 mètres de grillage qui entouraient son pavillon au roi d'Espagne, à Marseille.
Le 4 mars,
Captain Capiz a remonté l'intégralité des Champs-Élysées sans être perçu par un seul capteur.
Le 6 mars,
lors d'un concert joué à la Zouave de Lapalu sur Verdon, la saxo Audrey Calypso, musicienne intermittente, a sorti de son tube de cuivre un solo d'une telle incandescence sublime qu'on raconte qu'un furtif en est né. Tony Tufu a démonté un par un tous ses botagues pour en faire une unique machine à faire le flou. Après le Cosmondo, il a arrêté de taguer. Il dit qu'il abrite un condor de brume et que son corps est un brouillard.
Le 9 mars,
Christian A, viticulteur premium, a stoppé son tracteur en haut de la colline d'Aubenasson. Il avait cru voir une belette passer sous ses roues. Il est descendu à vérifier son pneu, puis il a levé la tête pour contempler la Drôme d'un verre translucide qui coulait au loin sur son lit de galets. Et sans raison apparente, il a décidé qu'il vendrait désormais son vin à prix libre.
Et on finit sur libre. Alain Damasio, donc voilà, pour ceux qui, celles et ceux qui nous rejoignent, on vient d'écouter Overmars, c'est l'un des titres musicaux, il y en a 8 qui accompagnent le nouveau livre d'Alain Damasio, Les Furtifs aux éditions La Volte. On est dans ce temps des écrivains avec Sylvie Germain aussi qui publie son nouveau roman Le Vent reprend ses tours, et pas seulement son tour, c'est chez Albin Michel. En fait, ce sont des mises en musique, récitations, prolongements, lectures, comment définir ça ?
Poésie, et ma question, tout simplement aussi. Mais...
Alors, poésie, très, et ma question, les mots suffisaient pas ? Il fallait d'autres sons que ceux des mots seuls ?
En fait, moi, voilà, bon, j'ai une écriture, c'est vrai, relativement poétique pour un prosateur, et j'éprouve le besoin de dire les textes, j'éprouve le besoin de les faire sonner. J'éprouve le besoin de les sentir monter dans la trachée, de les sculpter à la bouche, aux dents, au palais, à la langue, parce que c'est comme ça qu'on forme les sons et c'est comme ça qu'ils sortent dans l'espace. On est des sculpteurs d'air, quoi. Et ça, j'adore cette sensation de créer ces vortex. On parle du vent aussi dans le titre de Sylvie Germain. Bon, voilà, j'écris l'heure du contrevent et c'est un texte aussi sur le néfèche, le vent, la façon de sculper le vent. Donc j'ai un vrai plaisir à dire ces textes et j'ai un vrai plaisir évidemment à jouer avec Yann Péchin qui est un improvisateur extraordinaire. Il a 36 ans de carrière, il improvise en permanence. Donc c'est l'oralité pour moi paraît quelque chose de
on revient au d'évident, tigane,
d'évident, parlez, d'évident. Ouais, c'est ouais. Mais c'est l'origine de la poésie. Je veux dire le enfin on sait ou en tout cas on croit savoir que c'était d'abord l'oralité qui a bien sûr prédominé dans le langage et ensuite on a déposé ça dans des petites lettres noires sur les pages blanches. Mais cette oralité elle est fondamentale. Voilà, elle porte une sensualité que porte pas le texte seul. Quoi.
Je disais bon. Juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, quand vous dites j'ai une écriture assez poétique, c'est que c'est vrai, on pourrait se dire science-fiction, économie de moyens, que l'intrigue, il y a des grands auteurs qui ne sont pas des grands stylistes,
ouais,
qui sont bons. Après, la sécheresse est aussi un une style qualité, extrêmement intéressant. Mais c'est qu'en fait, oui, vous dites ça parce que vous ne cessez d'inventer des mots. On va voir aussi comment vous jouez sur la typographie, même certains calligrammes, certains glyphes, comme vous le dites. Je redis quelques mots sur ce livre qui vient 15 ans après La Horde de Contrevent, qui vous a imposé comme l'un des maîtres de la science-fiction française. Ce livre-là, Les Furtifs, aux éditions La Volte, se situe dans les années 2040. Légère anticipation. Donc on est en France, chaque Français porte une bague où est numérisé en fait tout son ensemble de données personnelles, de data. L'État est tellement pauvre qu'il a été contraint de vendre des villes à des entreprises privées. Et dans l'une de ces villes, qui s'appelle Orange, qui n'a pas changé de nom, on fait la connaissance de Lorca Varese, qui en fait cherche sa fille, qui s'appelle Tishka, et dont il pense qu'elle est partie avec des furtifs. Alors on en a parlé tout à l'heure, si vous nous rejoignez, j'en dis un petit mot. C'est une espèce animale fascinante parce que ce sont des animaux qu'on ne peut pas voir, qui se cachent dans les angles morts de la vision humaine, qui sont passés maîtres dans l'art du camouflage et qui fascinent tout le monde. Lui, il devient chasseur de furtifs, donc il rejoint une unité d'élite spécialisée. Je ne vais pas résumer le livre, il fait 700 pages, parce qu'en fait, c'est une plongée dans ce monde de 2040. Il y a diverses couches. Il y a d'ailleurs différents plans. Le plan politique, puisque c'est un roman engagé contre ce que vous appelez le techno-cocon dans lequel vivent ces hommes de 2040. Donc une sorte de cocon high-tech où tout est tracé, tout est traqué et tout est commercialisé. Sur le plan du style aussi, énormément d'inventions de langage, de néologismes, de morceaux de bravoure. Il y a même une bataille navale totalement homérique pour reprendre une ZAG. Alors c'est une ZAD plus plus.
C'est une zone autogouvernée, voilà. Voilà. C'est plus une zone à défendre, c'est une zone qu'on auto.
Voilà, un débat présidentiel que vous restituez entre un politicien froid et justement un penseur du vivant, car le vivant est vraiment au centre de ce livre. Et puis je pourrais envisager d'autres, évidemment, le plan écologique avec ce vivant, le plan philosophique, énormément de penseurs sont convoqués. On a la chance d'être avec Sylvie Germain, donc on en parlera peut-être. Et puis sur le plan graphique, puisque chaque personnage est signé par une graphie particulière, comme si le graphisme aussi sous l'influence de ces furtifs était en train de se modifier, en fait, de dérigidifier la typo.
Tout à fait. C'était, je voulais transmettre évidemment par les sonances, par tout un ensemble de travail sur le son, les caractéristiques de chaque personnage, mais pour les furtifs, je voulais qu'on sente ce que cette espèce d'invocation furtive, cette fièvre furtive qui nous prend, qui monte en nous et qui nous hybride, peut produire optiquement, quoi, graphiquement. C'est-à-dire que c'est vrai que les poètes lettristes, c'est vrai qu'Apollinaire, c'est vrai que Mallarmé ont utilisé la mise en page et la forme des lettres pour transmettre aussi des sensations. Mais c'est très rare, finalement, en roman, qu'on s'empare de ça et qu'on essaye de se dire, est-ce que ça pourrait pas aussi porter un certain nombre d'éléments sensuels que j'ai envie de porter au lecteur? Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec Esther Zach, qui est une typographe, pour déformer certaines lettres, pour utiliser des glyphes qui sont dans la police Garamond, qui est la police qu'on utilise sur ce texte, qui est une très vieille police, et pour justement porter l'hybridation dans
une
le corps même.
Police de caractère.
C'est bien de le préciser. Voilà. Et je trouve que c'est cette métamorphose des lettres elles-mêmes traduit directement et optiquement ce que j'essaie de passer.
Mais je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que Sylvie et Germain, qui de façon très très polie gardent le silence, la poésie, elle est aussi au cœur de votre texte, d'une autre façon. Alors, pas typographiquement, mais en fait, vous l'insérez sans dire de qui c'est au milieu de vos mots. Apollinaire est omniprésent.
Il y a beaucoup d'Apollinaire.
Voilà. Rimbaud, voilà. Pourquoi cette
J'ai une passion pour
obsession,
C'est pas obsession, c'est une passion pour la poésie. Je suis toujours émerveillée de voir que certains poètes arrivent en quelques mots et parfois des mots simples. Il s'agit pas de penser que la haute poésie. J'adore Mallarmé, mais c'est pas toujours. Y a pas que c'est cet usage extrême de la langue fait par Mallarmé. Parfois quelques mots d'une extrême simplicité vous mettent vraiment à l'arrêt.
Ouais. Le mot ptyx de Mallarmé, il est pas mal quand même.
Ouais. Car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dans le néant sonore.
Ça, Aboli bibelot, dynamité sonore.
Voilà. Non, il y a des choses, j'adore Mallarmé, absolument splendide, mais ça peut être aussi des choses extrêmement simples, comme d'ailleurs certains parfois poèmes d'Apollinaire. Mais bon, moi mon goût, il est très ouvert, parce que je peux aimer quelque chose de très dépouillé en poésie, pertinent par exemple Paul Celan. Bon, là, il y a une aridité très particulière, mais je suis aussi très sensible au lyrisme fou d'un Saint John Perse. Mmh. Bref, cet homme qui a subi parmi les pires choses qui soient du temps de la guerre, puis une véritable tyrannie communiste en Roumanie, qui est passé par les camps, qui est passé par beaucoup de choses, qui est passé la fameuse prison de Jihlava, qui était une des prisons les plus atroces de la police politique en Roumanie.
Là, vous parlez de votre héros.
Héros, le mot me semble toujours un peu bizarre. Oui. Enfin, le personnage important. Voilà, le protagoniste. Mmh. Mais le mot personnage est très beau. Et bref, ce qu'il a en un sens sauvé, tenu, pour ne pas tomber simplement dans le ressentiment, la haine, et qui font pas avancer. C'est ce qu'il a sauvé aussi pendant ces années de détention, la poésie et la pensée, et l'exercice de la pensée envers et contre tout.
Ce qui était le cas de beaucoup de gens, d'ailleurs, qui se sont récités.
Absolument. Il y a beaucoup de témoignages d'anciens déportés ou prisonniers. Qui ont tenu grâce à ça.
Est-ce qu'il y a une politesse chez vous, Alain Damasio, dans la mesure où, on l'a dit, c'est très offensif contre le monde dans lequel nous vivons, c'est un texte engagé, un texte qu'on peut dire militant aussi, mais en même temps, serti de cette politesse poétique, c'est-à-dire qu'on vous présente, et moi ça m'a surpris, c'est vrai que j'ai pas lu quand c'était sorti Contrevent, La Horde de Contrevent, mais à la fois très offensif, mais très poétique. Est-ce qu'on peut, quand on dit auteur de science-fiction, est-ce que c'est une appellation qui vous convient ou est-ce que c'est pas un peu étroit?
Moi, je le revendique parce qu'on a souvent minoré ce genre en considérant que il était articulé uniquement à la robotique, aux vaisseaux spatiaux, à ce qu'on appelle le Planet Opéra, et que Star Wars a popularisé, malheureusement, j'ai envie de dire, en oubliant tout le champ de ce que les Américains appellent la soft science fiction, c'est-à-dire la science-fiction de science humaine, qui s'inspire de la philosophie, de l'anthropologie. On pourrait parler d'Ursula Le Guin, on pourrait parler de l'ethnologie, de la sociologie, de la psychologie. Il y a des textes de K. Dick qui sont des textes qui en psychologie pure sont extraordinaires. Donc cette science-fiction-là, donc il se sert des sciences humaines, pour moi, elle est extrêmement vaste, extrêmement riche.
Mais de la poésie.
Mais Bradbury est très poétique, on l'oublie, mais les textes de les Chroniques martiennes, c'est un texte qui est très, très poétique. Et il n'y a aucune limite ou nécessité de se contraindre à un style sec, comme vous le disiez tout à l'heure, pour la narration, quand on fait de la science-fiction. Donc moi, je revendique vraiment, vraiment le genre. Après, tout texte, quel que soit son genre, appartient pour moi à la prose ou à la poésie ou à la littérature de façon générale. Donc, je peux tout à fait me revendiquer d'être juste un écrivain de littérature globalement, comme de science-fiction, mais j'ai pas envie de renoncer ou de dire que la science-fiction est quelque chose de restrictif, parce que il me semble que c'est l'inverse, c'est un genre extrêmement vaste, extrêmement libre, et qui permet beaucoup de choses,
On va vous entendre lire un extrait des Furtifs. Alors, c'est pas un passage spécialement poétique que j'ai choisi.
Non, c'est vrai.
Mais philosophique. Il est question notamment de Simondon. Voilà. Et on parle des Furtifs de ces fameux.
Voilà, c'est un philosophe qui s'appelle Varek dans le livre et qui est un philosophe du vivant, effectivement. Il débite tout ça sans note, évidemment, en empilant et désempilant des sucres sur une poutre de châtaignier hors d'âge qui est plus nouée et plus tordue encore que ses salves d'explications. Il parle comme il pense, vite, et avec une agilité foutument impressionnante pour un type de 77 ans. À 43, j'aimerais juste avoir la moitié de sa virtuosité et avoir lu autre chose que des essais sur sociocratie et holacratie dans les communautés autogérées. Saskia reste hyper concentrée et je la bénis d'être là. C'est elle qui a la vista de relancer. Ils sont fragiles ? Paradoxalement, non. En tout cas, bien moins fragiles qu'un animal, même et surtout magnifiquement adaptés. Si leur prise de forme était trop parfaite, trop adaptée à son environnement, ils seraient en danger dès qu'ils bougent. Ils perdraient leur puissance de métamorphose, leur dynamisme viscéral, pour un corps individué et trop défini. Mais ils ont bien une forme, ils sont quelque chose, non? Strict au sensu, ils ne sont rien. Mais ils existent. Pas comme substance, comme force. Force automorphe et exomorphe capable d'agencer en elle matériaux disparates et rebuts contradictoires. Pour s'obliger non pas à des évolutions, mais à des transductions. Se pousser à se dédifférencier, à s'aménager des différences de potentiel qui leur garantiront toujours de très hauts niveaux d'intensité interne. Les furtifs, tels que je les comprends, incarnent la forme la plus élevée du vivant, précisément parce qu'ils ont renoncé à la forme parfaite.
Merci beaucoup Alain Damasio. Donc extrait des Furtifs, c'est vraiment la clé de ce roman, c'est vraiment la notion de vivant, de retrouver le vivant.
Ah, pour moi c'est vraiment ouais.
Est-ce qu'écrire c'est aussi participer à ces retrouvailles de l'homme avec le vivant?
En tout cas, moi à titre personnel, quand j'écris, l'immense plaisir que j'ai à le faire, c'est que j'ai l'impression de convoquer la totalité de ce que je suis et de faire vibrer, de faire vivre justement la totalité de ce que je suis sur le plan affectif, émotionnel, mais aussi sur le plan de la perception, mais aussi sur le plan conceptuel. Et le roman permet ça, et c'est la grande force du roman, c'est de traverser comme un alliage incandescent, comme ça, ce côté affectif, perceptif et conceptuel, et de pouvoir véhiculer tout autant des idées que des émotions incroyables, et sans restriction. Voilà. C'est-à-dire que c'est, dans un essai, on est un peu coincé dans le conceptuel. Si on fait vraiment qu'un récit de divertissement, on est un peu coincé dans l'émotionnel. Et le vrai roman, je trouve, balaye tout ça. Et moi, ça me met envie quand j'écris. Et c'est pour ça que j'ai un immense plaisir à le faire, bien sûr.
On écrit avec son corps, vous le disiez.
Et on écrit avec sa mémoire. On écrit avec tout, en fait. Hein. Donc, c'est ce qui nous rend vivants et ce qui permet de communiquer aussi vivant vers le lecteur, j'espère. Mais...
J'aurais plein de questions à vous poser, Alain Damasio. On aurait pu parler de Banksy aussi, dont il est question, le graffeur invisible, hein, bien connu pour ses peintures urbaines et sa critique aussi, hein, de acerbe et très joueuse du capitalisme. Et en fait, je pense à Banksy parce que à la fois il y a cette perturbation de la typographie, on l'a dit, donc je me suis demandé est-ce que finalement il essaie pas de rapprocher la littérature de l'art aussi. Il est question, j'aime beaucoup cette notion d'une œuvre d'art que vous appelez le Cosmondo, c'est ça, une œuvre d'art dans laquelle on entre et sur laquelle on agit.
Ouais, tout à fait.
Où il emmenait sa fille.
Il emmenait sa fille, qui était une sorte de maison un peu folle.
Je voudrais citer d'ailleurs ce passage sur le Cosmondo. Moi, je l'amenais au musée parce que l'espace y respirait et qu'au bout des salles, juste avant le magasin, si tu bifurquais par un couloir oblique que peu de gens repéraient, il y avait cette œuvre monumentale de Fulvia Carvelli, Il Cosmondo, qu'elle avait explicitement permis et même encouragé qu'on touche et que les visiteurs pouvaient même escalader et modifier parce qu'elle était modulable. C'était une sorte de maison-monde de 6 mètres de haut et de bien 15 de large où l'on pouvait entrer, ramper, se glisser et se cacher, se perdre, même tant les cheminements étaient sinoques et contre-intuitifs sur un aussi petit volume. Est-ce que ce n'est pas une définition de votre roman, Les Furtifs?
Peut-être, c'est une sorte de miniaturisation.
On doit rentrer, le lecteur est obligé, vraiment.
C'est parfois un peu compliqué.
Il faut faire...
À certains moments, il y a un côté, forcément dans les créations de l'univers, il y a des côtés un peu labyrinthiques, ou en tout cas qui demandent un cheminement et que le lecteur se fasse une place à l'intérieur du texte. Et effectivement, ce Cosmondo est peut-être une sorte de métaphore involontaire du roman tout entier.
Ouais. Vous êtes conscient de cette exigence aussi que vous demandez au lecteur? Umberto Eco avait fait un très très beau texte, Lector in Fabula, où il expliquait d'ailleurs qu'il fallait que le lecteur mérite les créations qui sortaient du cerveau d'un écrivain ou d'un artiste en général. Il appelait ça l'écueil pénitentiel des 100 premières pages, où il fallait vraiment presque mériter ça. Est-ce que vous attendez ça de votre lecteur? Est-ce qu'il y a un pacte tacite avec lui?
Ouais, pour moi, il y a peut-être un pacte de lecture qui est que j'essaie de communiquer énormément d'énergie, à la fois par la polyphonie, le changement de narrateur et par le style. Et en même temps, je pense qu'il y a une énergie de départ à avoir pour rentrer dans le texte, mais qu'ensuite on est, j'ai envie de dire, presque rémunéré d'avoir tenu les 30 ou 50 premières pages. C'était le cadre.
Rémunéré venant de vous, Alain Damasio, attention. Hein.
Ouais, de rémunérer au sens, c'est vraiment... Mais en tout cas, je pense que cette énergie que je demande pour rentrer dans le livre, elle est restituée, j'espère, pas au centuple, mais en tout cas...
Ah, tout à fait, je le dis.
À la fin du livre, ou voilà, c'est, non, on mais restitue énormément d'énergie. J'espère, en tout cas.
Pas à la fin seulement.
Ouais,
seulement.
Des fois, on me dit c'est trop dense.
C'est organique, en fait. Ouais, on a l'impression d'être dans un
corps.
Il faut
de l'énergie, on ne lit pas comme ça, on ne lit pas dans l'ascenseur, etc. Mais je trouve que si on le fait l'effort d'immersion, après, vraiment, on rentre et il y a beaucoup de restitution, ouais, j'espère, d'énergie ou de vitalité, en tout cas, à travers le livre.
On n'est pas obligé de lire que dans l'ascenseur. Sylvie Germain, vous qui nous donnez envie aussi, comme Alain Damasio, de renouer par vos livres, grâce à vos livres, avec le vivant.
Des livres brefs.
Voilà. Alors, vous, ça, justement, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit, cet effort-là? À votre lecteur, vous demandez quoi, vous?
Moi, je ne demande rien, parce qu'on n'est jamais assuré d'avoir un lecteur. Je vais plutôt répondre en tant que lectrice. Et on a tous fait l'expérience, même avec des grands chefs-d'œuvre de la littérature, s'y reprendre à plusieurs fois pour vraiment avancer, vraiment rentrer dedans, et on a sa récompense.
Voilà. Mais comme auteur, pour vos romans, vous dites, bon, vous pensez jamais au lecteur imaginaire qui va se pencher, si vous n'écrivez que pour vous dans ce lien peut-être, ou est-ce que vous lui demandez un effort d'entrer dans votre univers extrêmement poétique, d'aucuns ont dit mystique, dans cette prose. Non, mais ça m'a amusé. J'aime la façon dont l'époque met des mots pour d'autres.
Furtivement mystique. Voilà.
c'est très très bien. On va écouter votre choix musical, Sylvie Germain, mais d'abord je dis un mot sur le vent reprend ses tours, qui est une citation de l'Ecclésias, c'est le titre de votre livre, qui raconte comment celui qui était un enfant et un adolescent et qui est devenu adulte va, par la réapparition de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, une sorte de saltimbanque roumain, à moitié romain d'ailleurs, vous le disiez, quelqu'un qui récitait de la poésie, qui l'emmenait quand il était petit dans les rues parisiennes, regardait les plaques des maisons où avaient vécu les poètes et qui se mettait à réciter sans parfois d'ailleurs citer le poète, en mélangeant certains, en faisant sa propre poésie. Comment finalement cet homme qui avait disparu réapparaît dans la vie de ce garçon qui a bien grandi depuis qu'il est enfant et qui va se réveiller, retrouver le vivant, retrouver la vie. C'est ça l'histoire du vent qui reprend ses tours.
Oui, c'est pas seulement la répétition, on pourrait penser l'éternel retour du même. Il y a cet aspect-là justement du temps où la vie de ce garçon s'est mise comme entre parenthèses et s'est enlisée dans une sorte de normalité, confort, etc. Et le vent aussi peut reprendre ses tours, c'est-à-dire se relever, se soulever, partir en spirale et faire dévier justement une trajectoire qui s'était un petit peu enrayée. C'est plutôt dans ce sens-là, moi, que ça m'intéresse, que le vent reprenne ses tours, que le souffle revienne, quoi. C'est ça, la vie.
Le souffle, c'est la vie. Oui. J'ai cru qu'Alain Damasio allait dire conforteresse, parce que c'est un des mots que vous inventez aussi. Alors, vous avez choisi Vladimir Vysotsky. Tchitcherny, alors on parlait des yeux noirs, parlait des tziganes tout à l'heure. Pourquoi ce choix musical?
Mais parce qu'il fait partie des chanteurs que j'aime beaucoup. J'adore ses voix très très cassées, très rappeuses, très très excessives. Bon, c'était quelqu'un de complètement excessif. Et d'ailleurs, il est mort comme calciné de l'intérieur. Il avait 40, 42 ans, quoi. Lui aussi, c'était pas un furtif, mais à sa manière, très rebelle, très très excessif. Et j'aime beaucoup, surtout chez les chanteurs et pas seulement, chez les artistes en général, chez les gens, quand il y a cette capacité, cette puissance intérieure, quitte parfois à partir un peu dans tous les sens et à être maladroit, à être dans certains excès, mais voilà, ils sont mus, ils sont comme presque même lui brûlés par un désir de vivre que rien ne peut apaiser, que rien ne peut contenter.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Правил я, не устал пока, пел за здоровье, а умел я петь песни вздорные. Как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцой и полотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, что в горло скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок примаз. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна, колют иглы меня, до костей достают. Коренной ты мой, выручай же, брат, ты куда родной? Почему назад дождь, как яд с ветвей, не добром пропах при снежной моей? Волк нырнул под бок, вот же пьяный дурак, вот же навел глаза, ведь погибель пришла, бежать не суметь. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть я орал.
Et voilà, on a écouté Vladimir Vysotsky, Tchitcherny, les yeux noirs, voilà, chanson de cigane. C'est votre choix, Sylvie Germain. Il est question du monde tzigane, il est question de la Roumanie dans ce livre. Le vent reprend ses tours qui paraît chez Albin Michel. Je voudrais qu'on vous entende immédiatement lire. Je dis juste un mot, hein. Gabriel n'est pas mort. C'est l'information qui frappe votre héros Nathan, qui est un homme endormi dans le confort et qui se souvient que l'homme qui l'a initié à la poésie, une sorte de saltimbanque roumain qui connaissait pratiquement tous les poèmes par cœur, qui les récitait devant des plaques de maisons où avaient habité les poètes à Paris, qui lui a fourni cette éducation vagabonde qui lui a permis de sortir de son milieu, il s'est rendormi et soudain, sous un abribus, il apprend que cet homme n'est pas mort comme on lui avait dit, mais s'est échappé de l'hôpital où il était soigné. Il a vieilli et il se dit « il faut que je retrouve le fil, Gavril ». Voilà, on écoute Sylvie Germain. Ça va, j'ai bien résumé ?
Très très bien résumé. Simplement, le passage que je dois lire là, c'est une femme qui lui a permis de retrouver les traces de cet homme
qui a enregistré,
qui lui pose cette question. « Vous connaissez beaucoup de poèmes, en écrivez-vous vous-même ?» La manière intempestive qu'elle a de l'interroger décidément l'irrite. Il répond, mais il lui retourne vite la question. « Je connaissais un certain nombre autrefois, grâce à Gavril Kranz. Il était une sorte d'anthologie poétique vivante. Il déclamait des vers comme on respire. Mais il y a si longtemps, j'ai presque tout oublié. Il me reste des bribes. Parfois me reviennent quelques strophes, quelques vers. Quant à en écrire, j'en serais incapable. Et vous ?» Non plus, la poésie, je la trouve chez les autres, je la lis dans leur vie. Ah, vous trouvez la vie des gens poétiques, vous. On prétend que les plus beaux poèmes sont ceux que l'on n'a pas écrits. La plupart des gens n'en composent pas, mais tous en font, rien qu'en vivant. Et on trouve tous les genres, des burlesques, des baroques, des érotiques, des élégiaques, des surréalistes, des classiques, des lyriques, quelques héroïques, beaucoup de tragiques. En fait, c'est souvent un mélange de plusieurs genres qui se côtoient, se bousculent ou se succèdent. Oui, chaque vie peut être considérée comme un poème, plus ou moins foutraque, décousu, accompli ou raté.
Merci Sylvie Germain pour cet extrait de « Le vent reprend ses tours ». Il est beaucoup question de poésie, hein, on en a parlé au cours de cette émission. Il est beaucoup question aussi de retrouver peut-être un fil de beauté, d'intensité dans la vie contemporaine. Quel rapport vous unit à ce texte, hein, donc qui vous a donné le titre, l'Ecclésiaste, qui revient en fait beaucoup dans ce texte. En arrière-plan, on sent que tout serait vanité s'il n'y avait pas justement peut-être cette création, cette poésie, cette parole des autres sans cesse retransmise et reprononcée.
La poésie, je pense qu'on peut le prendre comme parmi les activités que l'on peut avoir, les humains dans la créativité, comme parmi les exemples de ce qu'il y a de plus vivifiant, justement, de ce qui peut réintroduire le plus de saveur. Moi, j'aime beaucoup ce mot aussi de saveur. Et souvent, on nous fait passer des pseudo-saveurs pour ce qui ne l'est pas. Voilà, la poésie, mais ça, on pourrait parler, parce que j'y suis particulièrement sensible, mais on peut parler de la musique, de la danse, en fait, de toutes les façons où la peinture, les couleurs, on pourrait écrire tout un roman aussi sur les couleurs. Il y a quelque chose d'éblouissant dans l'usage ou déjà la contemplation des couleurs. C'est simplement à chaque fois essayer de retrouver justement, de réveiller, de rajeunir, de réenchanter, de réenfanter son regard sur le monde, sur les autres, sur le temps, sur ce mystère absolu qu'est le temps. Le temps, comme disait la philosophe Simone Weil, le temps n'existe pas en un sens. Et on n'existe, nous, que par et à travers le temps, mais on peut pas le définir, ça nous traverse, ça nous use, mais c'est à travers cette traversée du temps, justement, que l'on peut apprécier le fait d'être au monde, de ce que c'est que le monde. Et notre passage, il est furtif, quoi qu'on fasse. Il est rapide, il est furtif. Et l'erreur est de croire que l'on peut y être en gloire, y être de manière par la puissance, par l'enracinement, etc. Non, ça c'est une erreur et c'est là qu'on commet souvent des dégâts.
Et quel sens donner justement à cette omniprésence de l'Ecclésiaste, de la mémoire, des traces en fait? Il y a tout cet aspect-là, ce qu'ils appellent tous les deux les mementos.
Et il y a les stigmates.
Et il y a les stigmates, exactement. En quoi c'était important, justement, de mettre de façon si importante dans votre livre l'idée de traces? Ce sont des antitraces par rapport à celles de Damasio, qui sont des traces qui servent à fliquer les êtres humains. Chez vous, ce sont des traces qui servent presque à les réinscrire dans une histoire positive.
Ah oui. Bah, il y a ce vers très célèbre de René Char qui est très beau, où il dit « Un poète ne doit pas laisser de preuves, seulement des traces ». Nous tous, dans nos vies, c'est tout ce qu'on devrait faire, non pas laisser des preuves de notre passage, etc., juste des traces. La phrase, le vers de René Char, on pourrait tout à fait l'appliquer à cette idée de Dieu, cette idée qui nous vient à l'idée, et finalement dont on ne sait rien. Si les humains avaient la modestie de se dire qu'un Dieu ne laisse pas de preuves, ce qui est le cas, mais seulement des traces, peut-être on se calmerait un petit peu avec les idéologies mortifères qu'il y a autour de tout ça.
Et c'est ce qu'ils font tous les deux, chercher des traces quand ils lui montrent les maisons, justement, bah, ici,
le plus ancien,
Verlaine.
Gavril, quand il lui montre, c'est à la fois pour l'initier, lui ouvrir, enchanter un peu cette enfance qu'il sent un peu sinistrée. Donc c'est ce qu'il appelle les mementos. Ici, a vécu, là c'est Blaise Pascal, là c'est Descartes, là c'est un homme politique, là c'est une artiste, enfin bon. Et il lui lit des bribes de poèmes comme ça. Et c'est, il lui montre qu'on peut jouer aussi avec les mots, qu'on peut s'émerveiller des mots, qu'il y a une gratuité, mais qui va très très loin. Parce que c'est important de réouvrir la mémoire, de la revivifier tout le temps. Sinon, tout le monde, toutes les œuvres, aussi bien par une création artistique que parfois un grand scientifique, un grand médecin, les œuvres qu'ils ont vraiment produites et qui se sont révélées extrêmement importantes et vivifiantes pour leurs contemporains et après, c'est important toujours de garder cette mémoire. La gratitude est quelque chose d'extrêmement important. C'est un acte de gratitude, la mémoire. Un véritable usage de la mémoire, c'est une œuvre de gratitude. Et c'est très important, parce que c'est là que ça devient fécond.
Et c'est une œuvre de gratitude que vous avez voulu faire, vous aussi, en évoquant, vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais en évoquant la Roumanie, donc le pays de Gavril, ce pays d'origine, en envoyant d'ailleurs voyager Nathan dans ce pays, dont Gavril disait « c'est un pays d'une formidable beauté, paysage, village, église en bois et monastère, montagnes et rivières, et les forêts à perte de vue, à perte de mémoire, tant elles sont anciennes, sauvages. » Et Nathan va faire le voyage. C'était aussi une œuvre de gratitude, de parler de ce pays-là, qu'est-ce qui vous unit à ce...
Rien de particulier, si ce n'est quelques poètes. Ouais. Et à la limite, le personnage de Nathan fait un voyage que je n'ai jamais fait. Je n'ai pas du tout la prétention de connaître...
Vous n'y êtes pas allé?
Je suis allée 2-3 fois en Roumanie, mais sur des temps très courts et dans des villes, donc je peux pas du tout prétendre connaître la Roumanie, non, ça serait...
Donc ces paysages devant la mer Noire, etc., tout ça, et...
Ce qui me font...
C'est l'Iliade qui vous a fait...
Voilà. Non, j'y avais pas encore lu à ce moment-là. Je m'étais pas encore plongée. Non, la gratitude, c'est à l'égard, effectivement, de poètes, de pans de l'histoire ou de personnages qui, eux, ont su résister. Certains que j'évoque ont réellement existé. Je les mets pas en scène,
Gérard
mais je les évoque.
Lequin.
Non, mais dans ceux qui ont résisté, par exemple, Nicolai Steinhardt, qui était un juif qui s'est converti à l'orthodoxie en prison dans des conditions hallucinantes. Le baptême s'est fait en l'espace de 3 secondes dans le dos des matons avec un petit peu d'eau croupie dans une tasse. Enfin bon. Et cet homme avait laissé un très beau témoignage, un livre qui s'appelait Journal de la Félicité. Il y a d'autres personnages comme ça que je les mentionne. Je me permets pas d'en faire des personnages. Je les mentionne et qui ont été aussi dans la résistance et qui l'ont payé de leur vie. Donc, ça pourrait être aussi, hélas, dans chaque pays, on doit pouvoir trouver ça. Bref, citer les poètes, citer des noms aussi de gens donc comme ce Nicolai Steinhardt et quelques autres, c'est aussi une manière comme de saluer, vous voyez. C'est une façon de saluer.
Gratitude aussi.
Nous, on n'est qu'un petit passant, là, sur quelques décennies, au mieux, et on serait peut-être pas là où on n'aurait pas cette manière d'être au monde si d'autres, avant, ne nous avaient pas offert leur propre témoignages, leurs propres œuvres.
Alors précisément, pour terminer, Sylvie Germain, je voudrais évoquer ce passage. Donc, le personnage est face à la mer, à contempler les jeux de la lumière et des couleurs glissant d'un bleu turquoise éclatant à des bleus teintés de mauve, de gris, de vert ou de violet selon l'heure, la saison. Et je cite ces phrases. « Il était resté là longtemps, à admirer cette mer qui avait tant émerveillé déjà des marins grecs plus de 2,5 millénaires auparavant. Lui n'était ni un marin ni un cavalier, juste un marcheur qui faisait halte et apprenait à regarder, qui réapprenait la beauté, car il en avait perdu le goût, et même jusqu'au désir, non qu'il l'ait assise un soir sur ses genoux, qu'il l'ait soudain trouvée amère et qu'il l'ait injuriée. Il n'avait pas eu cette fougue, cette témérité, il n'avait su que repousser passivement et tenir à distance celle qu'il avait reçue un jour comme une main posée sur son épaule, tant elle lui était devenue douloureuse. La beauté lui faisait mal. Alors, évidemment, vous vous amusez à entrelacer vos mots et puis ceux des autres, puisque, évidemment, Rimbaud. On reconnaît le prologue d'Une saison en enfer. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Donc oui, Rimbaud, c'est de l'intertextualité. À quoi bon réinventer? Comme s'il fallait se dire à quoi bon réinventer, autant transmettre pour qui verra, qui sentira, qui connaîtra un peu de cette beauté dite par d'autres.
Ben, il faut toujours, la, si elle n'est pas redite, si les textes comme Rimbaud ou tant d'autres ne sont pas lus, relus, redits, remis en scène, remis, vous parliez tout à l'heure, de remis en bouche, remis en sonorité, remis
sans qu'on dise
vie,
que c'est deux.
Non, je ne enfin, me permettrai non, personne, pas, tout le monde
à sait,
peu près, non,
c'est, voilà,
sait.
Entrelacé.
Et c'est parce voilà. que je me suis permis ça à la fin, parce que plusieurs fois dans le cours du texte, et corps aussi, et mention est faite de Rimbaud et de ce
sûr.
Poème. Donc,
non mais je trouve ça bien, voilà. moi. Hein. Je disais pas que vous étiez...
Moi je trouve voilà. qu'il faut dépatrimonialiser tout ça. Quoi. C'est-à-dire que c'est devenu tellement des textes scolaires qu'on a portés, qu'on a mis sur des estrades, etc., de remontrer que c'est de la vie, de le remettre
oui,
dans le sang
dans
du
la
récit,
vie, voilà.
dans le sang des personnages, dans la sève. Moi, je trouve ça très bien, au contraire, quoi. Que les gens reconnaissent, ils vont reconnaître, bien sûr.
Oui,
mais
voilà,
il y a pas.
Quand t'as d'autres mamans, ils reconnaissent pas, et c'est non, très bien aussi. Parce
c'est parce
que
à ce moment-là, ça s'est vraiment enfin infusé. Mmh.
Voilà,
dans l'imaginaire, dans la pensée, dans la vie de cet homme qui a été si longtemps mis justement comme en exil de sa propre vie, comme en suspens dans une sorte de temps très fade, très affadi. Et là, enfin, c'est vraiment le mot infusé. Et
voilà.
Il peut renaître.
Et on aurait pu citer ça aussi. Hein. Les mots sont des grenades, hein, dites-vous, Sylvie Germain. J'aimerais bien qu'on termine là-dessus pour ce drôle d'échassier. Les mots sont des grains de grenade qui éclatent à la moindre pression, pleins d'un jus couleur de sang, et pourtant translucides, au goût à la fois sucré et légèrement acide. Ces grains acres doux sont tout autant de vie que de mort, ils sont destinés aussi bien aux vivants qu'aux défunts, mais peu le savent. Et vous terminez, les jeunes enfants et les amants aussi le savent, mais les premiers perdent tôt cette connaissance, les seconds ne l'ont que par brèves intuitions et sont vite oublieux. Odeur du temps, saveur du monde, odeur d'oubli, grains de grenade. Vous avez peur que ça soit oublié, justement, ces mots, l'un et l'autre, justement.
Ah bah oui, c'est-à-dire peur. Il s'agit justement d'être vigilant et puis d'essayer de continuer...
À transmettre ces mots grenades.
Oui, à transmettre la saveur. Oui, l'image de la grenade est belle, enfin la grenade fruit, parce qu'il y a tout le mythe de Perséphone derrière, donc lié bien sûr à la mort, à l'oubli, mais c'est tout un mélange, toute une circulation. Et il faut continuer, oui.
Oui, et puis c'est un. Moi, j'adore évidemment la polysémie avec la grenade comme arme. C'est une arme
sûr.
Pour ouvrir les crânes, pour ouvrir les perceptions, pour nous refaire accéder au monde. On ingère ça et ça éclate en nous et ça disperse tout un ensemble de choses qu'on a besoin de retrouver. Donc ça, c'est moi, ça fait penser aussi à Rilke. J'ai un mantra de Rilke que j'adore, qui est je suis dans le travail comme un noyau dans son fruit. Je pense à ça. Pour moi, dans les phrases simples qui sont extraordinairement puissantes et qui traduisent quelque chose d'essentiel, ça fait partie de ces phrases moi qui m'accompagnent. Je suis dans le travail comme un noyau. C'est vraiment la sensation qu'on a quand on écrit, je trouve, quand on essaye de créer. On est abrité à la fois dans le fruit, et pourtant on dilate ce fruit, on l'étend, on le fait mûrir, et ça c'est magique. Quoi.
Merveilleuse image. Merci à tous les deux.
Merci
Sylvie Germain. Merci Alain Damasio. Je rappelle le titre de vos livres. Le vent reprend ses tours. Sylvie Germain, c'est chez Albin Michel. Les furtifs, Alain Damasio, c'est aux éditions La Volte. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir accepté cette invitation dans Le Temps des Écrivains. Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis, Marie Le Peintre à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster, réécouter sur franceculture.fr à l'infini ou presque cette émission avec Sylvie Germain et Alain Damasio.